Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En critique littéraire averti, Roger Caillois a passé de nombreuses années à s'interroger sur les contours et les caractéristiques de la littérature fantastique. Le fantastique, selon lui, n'est pas le merveilleux. Merveilleux qu'il avait d'ailleurs en piètre estime, mais plutôt ce qui suscite le mystère et le malaise. La précision de l'écrivain a son importance. Derrière ce rejet de l'esthétique du merveilleux apparaît l'origine de sa rupture avec les surréalistes et André Breton. Voici donc Roger Caillois au micro de Janine Worms, 8e épisode d'un entretien en 12 parties.
Roger Caillois, les quelques traits de votre biographie que vous avez bien voulu nous relater hier me font mieux comprendre les deux aspects qu'il y a dans votre œuvre. Toute la première partie, enfin toute la partie de votre œuvre que nous avons étudiée dans la première série de nos émissions et qui a trait à la mythologie, aux insectes, au mimétisme animal, la partie la plus scientifique,
celle qui est tournée vers le monde.
Celle qui est tournée vers le monde. Et l'autre partie que je voudrais que nous abordions cette fois, qui est tournée vers l'imaginaire, vers la littérature. Mais avant d'aborder la littérature elle-même, il y a encore un petit aspect que je voudrais que nous éclaircissions ensemble, c'est l'intérêt que vous avez porté au fantastique. Et notamment au fantastique dans la littérature.
Eh bien, d'une part, c'est un héritage de mon séjour dans le groupe surréaliste où la littérature fantastique, bien entendu, était en honneur. Elle était en honneur et non seulement en honneur dans les livres, mais on la pratiquait, pour ainsi dire. Il y avait, par exemple, des jeux dans lesquels nous nous interrogions devant un tableau, par exemple, un de ces tableaux de Quiricot où il y a des arcades, des mannequins, etc. Et nous nous demandions qu'est-ce qui devrait se passer à midi, qu'est-ce qui devrait se passer à minuit, quel personnage historique ou quel personnage de roman devrait s'y trouver, qu'est-ce qu'ils y feraient, quelle intervention surnaturelle pouvait s'y produire, etc. Ceci pour la littérature. Et c'était en même temps le temps où André Breton a republié la traduction de Théophile Gautier-Fils des contes fantastiques d'Achim von Arnim, où il y a toutes sortes de métamorphoses, de choses inanimées, c'est-à-dire de mannequins, d'armures, ou de golems, c'est-à-dire de créatures de terre cuite, d'argile, à qui un rabbin a donné la vie en inscrivant le mot hébreu qui signifie vie sur le front et qui deviennent animées et qui deviennent dangereuses après pour leur propriétaire. Il y avait donc ceci. Et d'autre part, j'étais un peu irrité par la façon dont mes amis surréalistes considéraient le merveilleux. Ils étaient à genoux devant. Ils ne s'interrogeaient pas dessus, mais ils s'extasiaient.
N'avaient-ils pas même tendance à le mettre là où il n'était pas ?
Ils avaient même tendance à le mettre là où il n'était pas, mais surtout ils avaient tendance à le diviniser là où ils croyaient qu'ils étaient. C'est même la raison pour laquelle j'ai dû quitter le groupe. Une fois, c'était au café de la Place Blanche où nous nous réunissions tous les soirs, quelqu'un avait apporté du Mexique des haricots, des fèves, qui avaient la propriété brusquement de sauter, un peu comme des culbuteaux. Et tout le monde s'extasiait là-dessus, et moi j'ai pensé que probablement c'est qu'il y avait un petit insecte, probablement un ver, et qu'on devrait bien demander un couteau au garçon pour en ouvrir un. Et Breton s'est fâché, il a reconnu là cette attitude qu'il appelait chez moi « anti-lyrique ». Et que c'était vraiment l'attitude la plus hostile au merveilleux qu'il avait jamais vue. Pour moi, ça n'était pas une attitude anti-merveilleux, c'était une attitude contre le merveilleux en ce qu'il a de factice. Et pour moi, le merveilleux est ce qui résiste à cette épreuve. Et c'est probablement à partir de cet épisode qui a fait que j'ai quitté le groupe surréaliste, parce qu'il y avait vraiment sur ce point incompatibilité d'humeur, que j'ai penser qu'il y avait une distinction fondamentale entre le merveilleux et le mystère. Le mystère, je veux dire le fantastique. Pour moi, vraiment, ce sont deux signes de culture et même de niveau de civilisation différents.
Et alors, vous rattachiez l'émerveillement devant les haricots sauteurs au fantastique ou au merveilleux ?
Au merveilleux. L'attitude. L'attitude, disons, typiquement surréaliste, devant un phénomène inexplicable, et ne pas vouloir qu'on l'explique, me paraît typiquement se rattacher à l'attitude des enfants, par exemple, devant les contes de fées. Ce que j'appelle merveilleux, ce sont les contes de fées, c'est-à-dire un moment qui est situé très loin dans le temps. Tous les contes de fées commencent, comme vous le savez, par « Il était une fois ». Et dans ce monde, il peut absolument tout se passer. Les instruments, les ustensiles se déplacent d'eux-mêmes. Les animaux parlent, ils sont serviables. C'est un monde qui est peuplé de fées, de magiciens, où tous les miracles sont à chaque instant possible. Et ceci, à mon avis, exclut le mystère. Parce que quand tout est possible, il ne peut rien avoir de mystérieux. Au contraire, le fantastique arrive quand il y a énigme. C'est-à-dire quand quelque chose se passe qui ne devrait pas se passer.
Car elle est interdite par les lois de la science qui ont ordonné le monde.
Oui, c'est-à-dire qu'au moment où l'homme a saisi les relations qu'il y a entre les causes et les effets, où il admet qu'il y a une législation dans l'univers, c'est-à-dire qu'on les thèses, disons, déterministes ou rationalistes, domine une conception de la nature, qu'il faut bien appeler la conception scientifique, à ce moment-là, le miracle devient impossible. Non seulement il n'est plus constant, mais il devient une espèce plus qu'un sacrilège, quelque chose qui est une irruption indéfendable et inconcevable qui fait scandale, n'est-ce pas ? Et ceci explique, à mon avis, la différence, non pas seulement de conception, entre le merveilleux et le fantastique, en ce sens que le merveilleux est un monde tout à fait à part, où il ne se passe que des prodiges, tandis que le fantastique est toujours une apparition ou une déchirure dans une trame très serrée du monde, mais aussi une différence de couleur, si je puis dire. Le merveilleux est rose, dans les contes comme ceux des Mille et Une Nuits, ou comme dans les contes d'Andersen, eh bien, l'orpheline méritante, disons, est toujours récompensée à la fin. Tout va vers le bonheur. Celui à qui arrivent les miracles ou qui les provoque, et quelqu'un qui jouit de la faveur des bonnes fées qui se sont penchées sur son berceau ou qui arrivent par exemple à apprivoiser les licornes. Au contraire, dans le fantastique, celui qui fait un pacte avec le diable est toujours damné parce qu'il va à l'encontre des lois naturelles. Il les viole et seulement la mort, et une mort violente, généralement par un coup de foudre, par exemple, entraîne sa disparition du monde, dans ce monde, et non seulement sa disparition de ce monde, mais sa damnation dans l'autre. Si bien qu'il y a une différence, à mon avis, radicale entre le fantastique qui pose toujours une énigme et le merveilleux qui est un lieu de rêve, mais au sens faible du mot rêve.
Au sens de rêverie et d'émerveillement. Mais c'est justement une des choses sur lesquelles j'aimerais vous interroger.
Au sens d'émerveillement, encore plus. Quand je disais au sens faible du mot rêve, je pensais plutôt à ces villas de banlieue auxquelles les retraités donnent mon rêve comme titre.
Mais justement, c'est une chose qui m'étonne beaucoup, beaucoup. Vous dites que le fantastique et le merveilleux, et par la suite la science-fiction, sont en quelque sorte les moules en creux d'une étape, d'une civilisation, d'une culture. Or, le merveilleux qui correspond donc au monde antérieur à la science est rose, comme vous le dites, et le fantastique est noir. Est-ce que le moule en creux du Moyen-Âge est rose parce que le monde est noir? Est-ce que le moule en creux de notre monde est noir parce que notre monde est rose? Pourtant, ça ne semble pas correspondre à la réalité.
Non, ça ne correspond pas à la réalité. Ça correspond au manque de réalité, si vous voulez.
Justement.
Eh bien, je crois qu'on peut l'expliquer assez simplement. Ce monde où se passe le merveilleux, le monde des contes de fées, est un monde où l'homme est impuissant. C'est-à-dire, il a faim, il ne gouverne pas la nature, il ne peut rien sur elle. Aussi, rêve-t-il de prodiges qui lui donneraient qui le mettraient à tout instant à l'abri des maux naturels. Il veut toutes les choses impossibles, comme un enfant veut les choses impossibles. Par exemple, il veut être à plusieurs endroits à la fois. Il veut se mouvoir rapidement. Aussi, il pense à un tapis volant qui le transporterait d'un lieu à un autre dans une seconde. Il pense à devenir invisible. Il pense à être invincible. Il pense à redevenir jeune. Il pense à avoir des animaux, des petits animaux à qui il a rendu service et qui font son travail pour lui, Par exemple, il sauve une fourmi qui se noie dans une flaque d'eau, et c'est la reine des fourmis. Et quand plus tard il voudra épouser une princesse, eh bien le père de la princesse, le roi, lui demandera de séparer d'immenses moissons mêlées de seigle, de sarrasin, de blé, et ce sont les fourmis qui accompliront le travail pendant la nuit, etc. Mais à partir du moment où la science et la technique se sont développées, on voit bien que tout cela est impossible. Et en même temps que tout cela est impossible, c'est la science qui le réalise. À partir du moment où il y a des avions à réaction, on n'a plus besoin du tapis volant. C'est même un peu ridicule de voyager sur un tapis quand on peut prendre un turboréacteur, n'est-ce pas ? Et la même chose, quand on veut avoir la lumière en pleine nuit, quand il n'y a qu'à tourner un bouton, de même pour laver le linge ou pour récurer les casseroles, etc. À partir du moment où il y a des machines, où il y a des esclaves mécaniques, il n'y a plus besoin de mobiliser à son service les animaux serviables ou reconnaissants. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas de problème. Il reste le problème de la jeunesse, bien sûr, du retour vers la jeunesse, d'où le pacte avec le diable, d'où Faust. Il y a surtout le problème de la mort, et c'est pourquoi le fantastique, à mon avis, est presque toujours centré sur deux questions, sur la différence entre l'animé et l'inanimé, et puis sur le passage qui est devenu une barrière infranchissable entre la vie et la mort. Les héros des contes fantastiques sont presque toujours des spectres, des revenants qui viennent de l'au-delà, par exemple, pour se venger ou pour demander des comptes aux vivants. Et c'est également pour cela, dans la différence entre l'animé et l'inanimé, qu'on sait désormais que l'on ne peut pas franchir, que les statues ou les armures ou les tableaux s'animent et prennent part à la vie.
Donc, à vous entendre, ce qui jadis était le merveilleux est devenu la réalité, c'est-à-dire que notre réalité serait presque merveilleuse grâce à la machine, puisque nos machines accomplissent ce que les petites fourmis auraient pu accomplir jadis dans le merveilleux.
C'est-à-dire qu'elles seraient merveilleuses pour quelqu'un qui ne pouvait pas le faire, mais elles sont devenues normales pour nous.
Et, bien sûr.
C'est une question un peu, c'est une question de génération, et une génération qui devient beaucoup plus, qui va beaucoup plus vite maintenant. Penser que encore, par exemple, nos parents ont passé très vite de la chandelle, de la lampe à huile, à la bougie, puis à la lampe à pétrole, puis à l'électricité, et penser à ce qui s'est passé dans le domaine de la locomotion entre la diligence et la fusée des astronautes. Il y a une espèce de rapidité extraordinaire qui fait que ce qui paraissait merveilleux il y a à une génération devient au contraire le pain quotidien pour l'autre. C'est ce qui explique pour une bonne part l'espèce de démonétisation de Jules Verne qui a prédit des choses qui sont arrivées.
Oui, qui ne fait plus figure évidemment que de pionnier ou d'anticipateur.
D'anticipateur, mais d'une anticipation qui perd tous les jours de son intérêt puisqu'elle est réalisée.
Bien sûr, on s'émerveille quand même de son don de...
Ah mais Jules Verne est passionnant, je le défends, mais pour de toute autre raison. Et c'est peut-être dans les livres où il y a le moins d'anticipation que je le préfère.
Car c'est un merveilleux écrivain d'aventure.
Et didactique.
C'était Roger Caillois au micro de Janine Worms, 8e volet d'un entretien en 12 parties. Première diffusion de cette émission le 30 juin 1970. À suivre.